De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Mais enfin, qui êtes-vous?
Pourquoi cette insistance?
Elle est naturelle.
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Festival du cinéma de Cannes.
Festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Comment ça? Et qu'est-ce que ça vient faire dans tout ça?
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Il reste au fil des années le premier festival de cinéma du monde.
Je serais ravi de vous croire.
À vous, Cannes.
Il est arrivé sur la croisette où il signe déjà des autographes. Quentin Tarantino est avec nous.
Bonjour, nous sommes à Cannes, sur la croisette, hein, pour la 72e édition du festival. Alors que pour ce 8e jour, eh bien, l'équipe du film de Quentin Tarantino est attendue sur le tapis rouge, à savoir Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Le réalisateur américain a été assidu, hein, au moins avec les films asiatiques, car je l'ai vu à deux reprises pour deux projections. Alors on a vu beaucoup de films, beaucoup, Marine, mais on ne vous parlera que des trois qui sortent sur les écrans en même temps que le festival.
Oui, tout à fait. Moi, je vais notamment eh bien, vous parler du nouveau film des frères Dardenne, Le Jeune Ahmed, qui sort donc ce mercredi en salle et que j'ai pu découvrir eh bien, en compagnie de l'équipe du film ce lundi. Dans le cadre du coup du festival de Cannes.
Moi, je vous parlerai d'un film qui est hors compétition. C'est Les plus belles années d'une vie, le film de Claude Lelouch, hein, qui un film tourné 50 ans après la Palme d'Or d'un homme et une femme. Et puis Manu, qui est resté dans les studios, qui n'est pas venu sur la croisette, vous parlera eh bien du film de Pedro Almodovar qui a fait eh bien encore une fois sensation sur la croisette. Eh bien, on commence avec les chouchous du festival parce qu'ils ont remporté de nombreux prix. 99 Palme d'Or pour Rosetta, 2005 pour L'Enfant. Ils ont également remporté le prix du scénario pour Le Silence de Lorna en 2008 et le Grand Prix en 2011 avec Le Gamin au vélo. Ce sont les frères Dardenne.
Oui, les frères Dardenne, en effet, je confirme qu'ils sont extrêmement aimés ici puisque eh bien, ils ont eu droit à une standing ovation avant le film, hein, ce qui n'est pas fréquent. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le Grand Théâtre Lumière et ils ont eu droit à une longue standing ovation avant le film et également après. Le film parle d'un très jeune garçon, Ahmed, donc, qui a 13 ans et qui a glissé dans l'islam radical. Le film commence au moment où il a déjà basculé dedans à cause de l'imam de son quartier qui est intégriste et qui décide d'aller assassiner sa professeure d'arabe. Le film s'attache à décrire une hypothétique rédemption de la part de ce jeune Ahmed. Alors le problème, à mon sens, eh bien, c'est que beaucoup de films ces dernières années tournent autour de cette thématique. C'est-à-dire on a eu là des intégrations de Philippe Faucon, on a eu Le Ciel attendra, on a eu Les Cowboys, on a eu Made in France, récemment L'Adieu à la nuit de Téchiné. Et eh bien, dans Le Jeune Ahmed, on n'a finalement pas grand-chose de fort. C'est-à-dire que la thématique de l'intégrisme religieux est abordée avec tellement de pudeur, tellement de distance que finalement, ça manque pas mal d'intensité. Pour moi, c'est le film qui m'a le moins marqué cette année à Cannes, hein, pour le moment. Alors certes, il est très maîtrisé. Les frères Dardenne filment ce jeune adolescent avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité. Il y a une mise en scène, qui est quasi documentaire. Mais pour moi, je pense que c'est quand même très loin d'être assez fort pour mériter une Palme d'Or. Alors, les frères Dardenne, on le sait, sont quand même un peu comme des révélateurs de talent. Bon nombre de leurs films ont donné leur premier grand rôle à des comédiens comme Émilie Dequesne, comme Jérémy Régnier, comme Adèle Haenel. Ici, le jeune Idir Benhadi, qui joue donc le jeune Ahmed, eh bien, a quand même un jeu quasi mutique. Hein. J'ai un peu du mal à imaginer également qu'ensuite, on fasse appel à lui pour d'autres rôles forts. Déjà d'une, parce qu'il est quand même très jeune, comme en même temps Émilie Dequesne, hein, quand elle a fait Rosetta, mais son rôle est tellement mutique et tellement taiseux qu'on a finalement du mal à vraiment se rendre compte de son jeu, de la qualité de son jeu. Et puis surtout, moi, ce qui m'a beaucoup gênée, eh bien, c'est la fin du film qui est extrêmement bâclée. Alors, je pense que les réalisateurs se défendront en disant que c'est volontairement abrupt. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un petit peu paresseux. Peut-être qu'ils n'avaient pas fini à temps le film pour le Festival de Cannes et qu'ils ont fait le choix de cette fin choc, mais à mon sens, un petit peu facile.
Eh bien, les réalisateurs, évidemment, qui étaient à Cannes en conférence de presse, sont revenus sur cette fin qui en a marqué plus d'un.
Ahmed ! Pourquoi tu vas là-bas ?
Le film n'est pas un tribunal. Le film n'est pas un acte d'accusation. On essaie de voir comment on peut ou pas c'était notre pari au début, c'est comment on peut ramener ce jeune Ahmed vers la vie. Et le film raconte quand même deux mains qui se serrent à la fin. Donc, nous, c'est un film de paix qu'on a fait.
Notre personnage, on a essayé de l'aimer, vraiment. Et c'est pour ça qu'on a pris aussi quelqu'un de plus jeune. Parce que quand on a un personnage, si on ne l'aime pas, on fait un mauvais film ou un mauvais roman. On a essayé de l'aimer et de considérer que ce qu'il vivait, c'est un malheur pour lui. Même si lui, il a l'air heureux, évidemment. Il aime son imam, il est séduit par lui. Mais quelque part, le spectateur se dit, c'est pas possible qu'un préadolescent dise ça, qu'il pense ça, qu'il soit aussi dur avec ce prof qui l'a aidé, qui l'a aidé à lire, à écrire, etc. C'est pas possible. Et c'est ce fait que c'est pas possible qui fait, que le spectateur, la spectatrice, réfléchit en disant, mais c'est l'endoctrinement, le fanatisme, c'est quelque chose de très profond.
Tu veux toujours pas me serrer la main?
Au revoir.
Pourquoi tu vas là-bas? C'est lui qui t'a dit de plus me serrer la main.
Je suis plus un enfant.
Et alors?
Et alors, un vrai musulman serre pas la main d'une femme.
Et tous tes copains dans la classe qui me serrent la main, c'est pas des vrais musulmans?
Non.
Si c'était pour copier la réalité, ça ne nous intéressait pas. Mais on s'est dit, si nous on fait un film qui affronte cette affaire de fanatisme, il faut qu'on essaie de donner un autre éclairage que de copier la réalité. Et essayons de voir si ce personnage, on pourra le sauver ou pas, s'intéresser, vous voyez?
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur?
C'est pas un menteur.
Si, c'est...
Non.
C'est un menteur, Ahmed. Ahmed?
Un film sur la religion, c'est vrai que c'est ça que nous avons fait. Et je dirais tout de suite que le fanatisme religieux n'est pas propre à l'islam. Ce qui nous a intéressé, c'est que, bon, on a vu les films. On savait qu'il y avait des films qui avaient déjà parlé du fanatisme religieux, du terrorisme, des gens qui partaient en Syrie, de ce qu'on appelle la radicalisation. C'est le terme qu'on emploie en français. Ça, on savait, avec des réseaux économiques, sociaux, etc. Et on s'est dit, eh ben, est-ce qu'on peut imaginer qu'un phénomène imaginaire puisse occuper l'esprit de quelqu'un au point de le transformer, de lui donner le permis de tuer un autre qui n'est pas comme lui, c'est-à-dire un autre qui est l'ennemi, le mauvais, etc. etc. Et voilà, c'est ça qu'on a essayé de filmer, et c'est pour ça que on a un peu neutralisé ce qui était le contexte économique et social de Ahmed pour s'intéresser à ce qui était impur, si vous voulez. Sa famille, tout de suite, elle est pour lui. Je dis bien pour lui, je ne parle pas pour l'islam. Je dis pour lui, pour le radicaliser, sa famille est impure. Sa mère boit, sa mère ne porte pas l'habit réglementaire, sa sœur s'habille de manière non réglementaire aussi, etc. Donc, c'est ça qui nous intéressait, c'était de mettre tout le temps ce jeune fanatique en relation avec l'impureté.
Ahmed,
arrête-toi ! Allez,
laisse-moi faire ma prière.
Vous écoutiez les frères Dardenne pour Le Jeune Ahmed, film qui sort le 22 mai et qui était présenté à Cannes où nous sommes actuellement. Nous sommes sur la Croisette alors que l'équipe du film de Quentin Tarantino, très attendu pour cette 72e édition, cette équipe monte les marches. On va maintenant écouter Manu qui n'a pas fait le voyage vers Cannes, mais qui a pu voir Douleur et Gloire, le film de Pedro Almodovar, qui est sorti simultanément au Festival de Cannes et puis dans les salles françaises. Il paraît que c'est une vraie réussite.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
La résonance très soap opéra du titre est trompeur, même si le cœur du 22e film de Pedro Almodovar s'articule autour de la douleur d'un artiste ex-gloire du cinéma espagnol quelques années auparavant. En partie autobiographique, un Douleur et Gloire demeure une autofiction, sous-genre très pratique quand on souhaite s'amuser avec les faux-semblants, articuler le vrai et le faux, les éléments personnels et la part de fiction qui les accompagne. Alors Salvatore Malo est un cinéaste qui a connu le succès, en panne créatrice, dépressif et constamment meurtri par des douleurs physiques. Salvatore se traîne dans son grand appartement luxueux gracieux et coloré, vestige pop d'un passé étincelant. Alors les livres, les affiches, les toiles de maître, les objets insolites sont soigneusement agencés dans ce lieu gorgé de souvenirs, symbole de l'identité artistique du cinéaste. Mais il n'arrive plus à sortir la tête de l'eau, conscient que l'absence de création signifie pour lui absence de désir, voire même renoncement. Mais un événement va lui ouvrir les portes du souvenir, le replonger dans un passé afin de se reconstruire. Son film culte, Sabor, est projeté à la Cinémathèque de Madrid. Il contacte alors l'acteur principal avec qui il est brouillé depuis la fin du tournage pour des questions de divergence artistique. Cette opportunité va progressivement l'amener vers le chemin de la réconciliation en empruntant des voies pas toujours clean. En renouant avec le comédien Toxico de son film, il va plonger dans l'héroïne, moins par expérience que par abandon. La drogue va soulager ses douleurs, le déconnecter du temps et paradoxalement lui redonner une appétence à la vie en s'immergeant dans ses souvenirs après chaque shoot. Alors le film opère via une très habile construction du récit, des allers-retours entre présent et passé. On fait la connaissance de ses parents, essentiellement sa mère, durant les années 60, qui ne souhaite que le bonheur de son fils en le poussant à continuer ses études dans un institut religieux, alors pour ne pas finir pauvre ouvrier comme son père. Alors ils vivent dans une maison grotte, un drôle d'endroit. Ce lieu, résurgence des premiers émois de Salvatore, alors à peine âgé de 10 ans, son éveil prématuré au désir lorsqu'il verra le maçon analphabète nu. Almodovar s'empare délicatement de ce retour vers l'enfance qui ne sent ni la naphtaline ni la nostalgie surannée. Un retour empreint de douceur et de senteur, moment idéal pour saisir un peu de la sensibilité du personnage principal et par extension bien sûr d'Almodovar lui-même. Plus tard, par un de ses hasards fabuleux, Salvatore reverra aussi un de ses anciens amants lors d'une rencontre absolument bouleversante, peut-être l'un des sommets émotionnels de la carrière de l'auteur de Parle avec elle, qui a connu un amour perdu, de jeunesse ou non d'ailleurs, ne peut qu'être touché par ces retrouvailles éphémères sans lendemain, ravivant des instantanés de bonheur mais aussi de profondes blessures. Alors ce voyage introspectif à travers un travail de remémorisation touche pourtant à l'universel, ne sombre jamais dans l'autocentrisme du créateur à l'ego démesuré. Le film finit par être une ode à la vie, au désir même s'il faut passer par des moments empreints de douleur. Almodovar nous convie à en faire de même, à vivre certaines choses enfouies pour devenir nos propres créateurs de nos modestes vies. Et c'est assez bouleversant de vivre à l'écran une expérience intime se transformer en une admirable réflexion sur l'existence que tout un chacun peut s'emparer. L'épilogue, d'ailleurs magique, qui peut rappeler 8,5 de Fellini, achève de rendre indispensable cette merveilleuse leçon de cinéma mise en scène avec une élégance inouïe, loin du mauvais goût et des effets faciles des débuts du cinéaste, atteint par une sorte de grâce, tant au niveau du montage très fluide, la composition du cadre que des couleurs. Antonio Banderas, d'ailleurs assez fade en général chez les autres, est prodigieux en alter ego d'Almodovar. Bref, une possible palme méritée pour l'ex-enfant terrible de la Movida espagnole qui l'attend quand même depuis, on va dire, presque 15 ans.
Douleur et gloire de Pedro Almodovar, donc en compétition à Cannes pour cette 72e édition. Le réalisateur espagnol était évidemment présent à Cannes. On l'écoute parler de son film.
Comme nous sommes à Cannes, je dois dire que je suis français. Ou, comme disent les Français, estoy francés, parce qu'il y a deux verbes être en espagnol. Une fois que la France vous adopte, elle vous adopte définitivement. Julio Iglesias le disait. Si on réussit en France, ce public va vous être fidèle pour toujours. Et moi, je suis donc un cinéaste franco-espagnol de ce point de vue.
Qu'est-ce qui t'arrive, Salvador ? Les insomnies.
Si tu n'écris plus et si tu arrêtes les tournages, tu vas faire quoi ?
Vivre, je suppose.
T'as beaucoup trop de temps libre et tu te focalises sur tes douleurs.
C'est vrai, moi, je me projette dans le film tout entier. Mais je le répète, il ne faut pas prendre ce film à la lettre. Sinon, le personnage s'appellerait Pedro et pas Salvador. Mais ce qui est vrai, c'est que tous les thèmes sont importants. La famille, la mère, le désir, le travail, la création, l'enfance, etc. Et tout ça me représente. Cela représente ma façon de ressentir chacun de ces thèmes. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous donner les proportions, le pourcentage, quel est le pourcentage de réalité et de fiction, mais ce qui est important, c'est le mélange des deux.
T'as pas été un bon fils, mon garçon.
Ah bon ?
Non.
pas envie d'aller à l'école, je veux rester à la maison.
Il va me rendre dingue, ce gosse. Toi, t'as beaucoup d'imagination.
En ce qui concerne le désir, qui effectivement est très présent dans le film, moi, je suis très satisfait de cette séquence qu'on appelle le premier désir, c'est-à-dire lorsque l'enfant ressent une première pulsion de désir. C'est une scène très délicate dont je suis très fière parce qu'il y avait un enfant de 9 ans qui jouait ce rôle, donc il fallait faire très attention. Le film, ce n'est pas un récit littéral de ma vie, mais tout ce qui arrive au personnage d'Antonio aurait pu m'arriver. Certaines de ces choses, d'ailleurs, me sont arrivées, mais beaucoup d'entre elles font partie de la fiction. D'ailleurs, quand on commence à écrire un scénario, les premières scènes, en fait, sont liées à ma réalité, mais ensuite, la fiction entre en jeu. Et à partir de là, quand on écrit, il faut être fidèle à la fiction et pas à la réalité. Il faut que cette fiction cinématographique soit vraisemblable, même si cela l'amène à s'éloigner de la réalité.
C'était Pedro Almodovar pour le film Douleur et Gloire. Et en compétition à Cannes, il y avait un film qui était hors compétition pendant cette 72e édition. C'est Les plus belles années d'une vie, film de Claude Lelouch. Plus de 50 ans après la Palme d'Or d'un homme et une femme, Lelouch filme à nouveau ses acteurs et revisite son cinéma. Les plus belles années d'une vie, la deuxième suite de Un homme et une femme, après celle de 86, Un homme et une femme, 20 ans déjà, qui avait conquis un peu moins de 500 000 spectateurs à sa sortie, a été présentée hors compétition la première semaine du Festival de Cannes. Le succès du deuxième opus alors, n'a rien à voir avec la Palme d'Or de 1966, qui revendique plus de 4 millions d'entrées et qui a marqué plusieurs générations. Alors oui, bien sûr, c'était une autre époque où le cinéma était davantage attractif, les écrans moins nombreux, mais quand même, 20 ans après, a été décevant, même pour le réalisateur. Alors qu'attendre donc de Les plus belles années d'une vie, le troisième volet d'une histoire qui se déroule maintenant, soit 53 ans après l'histoire des deux amants, Anne, script au cinéma quand ils se rencontrent, et Jean-Louis, pilote automobile. Alors le décor n'est plus le même, on les savait à Deauville sur un air de Shabadabada. Si Anne y est restée, Jean-Louis, l'amoureux, invétéré des femmes et de la vitesse, est lui dans une maison de retraite, moitié grabataire, voilà pour le tableau. Alors le film commence d'ailleurs par une séquence qui nous montre un atelier de mémoire où des pensionnaires doivent se rappeler de grands événements. Jean-Louis, toujours interprété par Jean-Louis Trintignant, ne s'intéresse pas tellement à ce qui se dit. Pour tout dire, sa mémoire à lui fluctue. Des jours, il pense qu'il a un fils, d'autres, il n'en est plus très sûr. Un seul souvenir semble le hanter, son histoire avec Anne à Deauville il y a plus de 50 ans. Son fils a donc l'idée de demander à Anne de rendre visite à son père pour que tout le puzzle se reconstitue. Ce que nous donne à voir le dernier film de Claude Lelouch, c'est cette rencontre entre deux êtres qui se sont aimés mais se sont ratés. Alors pour orchestrer son récit, on ne cachera pas que Lelouch a fait appel à des outils habituels, la chanson... Voilà, la fantaisie. Alors la chanson, c'est avec Calogero. Mais pour moi, qui ne suis pas fan du réalisateur français, ni de Calogero d'ailleurs, et qui pense qu'il a raté bien plus de films qu'il n'en a réussi, il tisse avec son dernier long-métrage une histoire touchante où s'entremêlent des questionnements sur la mémoire, les sentiments, mais où autre chose est à l'œuvre. Alors tout d'abord, la puissance, la malice, la finesse d'un Jean-Louis Trintignant qu'on sait diminué et dont on sait que c'est sûrement le dernier film, lui qui ne souhaitait plus tourner de films. Mais Les plus belles années d'une vie est aussi le moment où Claude Lelouch orchestre un film qui en rassemble d'autres de lui. Il y a son premier film, un court-métrage qui s'appelle Rendez-vous. C'est une voiture qui fonce à vive allure dans Paris au petit matin pour un rendez-vous amoureux. Et ce premier moment de cinéma est joué en intégralité et se lie par un montage adroit aux images d'un homme et une femme qui ne cessent de venir à l'écran. De plus, Claude Lelouch s'amuse à rejouer des scènes de ses précédents films qui résonnent alors comme des running gags. La fameuse scène de l'automobiliste qui traite les gendarmes de menteurs parce que le véhicule ne peut pas aller à la vitesse qu'ils indiquent sur leur radar. Ça, c'était dans Des jours et des lunes, je crois. Voilà, et bien là, il est rejoué et admirablement joué d'ailleurs par Trintignant. On a l'impression... en regardant ce film, que sur ses 50 ans, Lelouch balaie son cinéma avec un clin d'œil à son succès inattendu qui est apparu très vite. Le personnage de Jean-Louis Trintignant qui fait des allers-retours dans sa mémoire s'apparente au geste du réalisateur qui lui aussi crée un film de souvenirs et d'éclat présent. même pour moi, qui n'aime pas du tout le cinéma de Lelouch, eh bien ce film m'a conquis, emporté par sa légèreté, sa patience et sa fantaisie. Alors bien sûr que Lelouch était à Cannes hein, pour parler de son film. Jean-Louis Trintignant n'était pas présent à la conférence de presse, on le sait, fatigué, diminué. Mais Anouk Aimée, plus vaillante, elle était présente, on les écoute.
Quand on a fêté les 50 ans d'un homme et une femme il y a 3 ans, et qu'on a revisité la copie restaurée du film avec Jean-Louis et Anouk, il y avait encore Francis Lay et Pierre Barou. Pendant toute la projection, je n'ai pas regardé le film. J'ai regardé Jean-Louis et Anouk qui étaient côte à côte.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
Vous rêvez à quoi ?
À des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
Un matin, je me lève très tôt, à 8 heures, pour aller prendre un café au bistrot. Et je tombe sur l'assistant de Jean-Louis qui était là. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Comment va Jean-Louis? Ben, elle me dit, je suis avec Jean-Louis, il est à Paris, il est à l'hôtel là. Je lui dis, je peux venir l'embrasser? Oh, il me dit, oui, absolument. Et je suis allé embrasser Jean-Louis. Et quand j'ai embrassé Jean-Louis, j'ai vu dans ses yeux des choses qui m'ont interpellé, un sourire incroyable, il m'a serré très fort dans ses bras et je lui dis, et si on leur mettait une couche? Comme ça, tu sais, le coup de poker, comme ça, je savais qu'il avait annoncé partout qu'il voulait plus faire de film, tout ça. Et puis je lui ai fait un petit pitch rapide qui m'avait été inspiré par ma visite à Annie Girardot quand elle avait Alzheimer. Sa fille était venue me voir en me disant, ça serait bien que tu ailles voir maman parce que la seule personne dont elle se souvient, c'est toi. Donc je suis allé voir Annie. Et c'est vrai que ça a été un moment magique et terrible parce qu'elle me reconnaissait, elle ne me reconnaissait plus, elle me reconnaissait. Je me suis dit, ça serait un départ de film fantastique. Et c'est ce départ que j'ai proposé aux comédiens. Et c'est là-dessus que tout est parti. Et...
Les plus belles années d'une vie.
Vous voulez vous évader avec moi?
Celle que l'on n'a pas vue.
Allez, embrassez-moi.
Ce serait la folie.
Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle?
Moi, je pourrais dire que voilà, la boucle se boucle. J'étais une enfant. J'étais enfant d'acteur, mais j'étais une enfant. Entre-temps, je suis devenue actrice. Et puis, avec ce film, on dirait qu'un fil s'est tissé. Et me voilà, 54 ans après... Toujours la même, pas tout à fait quand même. Et comme avant, en fait, quand je vois ces images superposées de moi petite et moi maintenant dans le film, je me dis finalement, j'ai pas changé. Claude m'a tellement bien filmé qu'il m'a enlevé une petite dizaine d'années. Je suis contente.
Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
J'ai fait 49 films et 49 fois, je suis retourné à l'école. Je veux dire qu'à chaque fois que je commence un film, j'ai envie de trouver des choses nouvelles. Dans la photo, dans l'émotion. Enfin, je veux dire que faire un film... J'aime pas faire un film de plus. J'ai envie de faire un... Bon, je suis un peu un chercheur. Voilà, j'aimerais être l'Institut Pasteur du cinéma. Voilà, en toute modestie. Mais c'est vrai que là, je me suis lancé un défi anormal. Je veux dire que je savais très bien, c'est le film qui m'a fait le plus peur. Qui m'a fait le plus peur et qui faisait peur à Jean-Louis, qui faisait peur à Anouk. Et je me suis dit, on ne pourra pas faire ce film si les miracles ne sont pas au rendez-vous. D'ailleurs, j'ai l'argument que j'ai eu avec Jean-Louis pour le convaincre définitivement. J'ai dit, écoute, si le film ne nous plaît pas, on ne sortira pas.
Mon amour.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont regardé comme ça.
De te dire, mon amour.
Je me souviens d'elle comme si c'était hier.
Sans chagrin.
T'étais tellement belle.
Moi, ma réponse.
On est toujours beau quand on est amoureux.
C'est toi.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amoureux?
Toujours. C'est toi.
Les plus belles années d'une vie, c'était Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch, un film qui sort le 22 mai.
This is Cinérama.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
Le festival de Cannes.
C'est irrésistible, en effet.
Et nous accueillons maintenant l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood, le nouveau film de Patrick Tarantino.
Nous sommes toujours à Cannes, sur la croisette. Nous sommes au 8e jour. C'est le jour où Quentin Tarantino. Alors là, depuis qu'on est présent à Cannes, on n'arrête pas d'entendre parler du réalisateur américain. C'est lui qui fait la sensation. Et il monte les marches pendant qu'on vous parle. Et ben voilà, il n'y a pas que lui, quand même, hein, dans cette 72e édition. Marine, qu'est-ce qu'on peut dire à mi-parcours ? Enfin, c'est quasiment terminé. Hein, il reste quelques jours maintenant.
Bien moi, en fait, j'ai eu pas mal de chance, je pense, ou alors, eh bien, c'est qu'on a le droit à une très bonne 72e édition, puisque, à mon sens, eh bien, je n'ai vu que des films que j'ai aimés. Hein. Donc voilà, encore une fois, à part peut-être un petit peu moins celui des Frères d'Ardenne, j'ai beaucoup aimé le film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. J'ai l'impression cette année qu'il y a beaucoup de rôles féminins forts, beaucoup de très beaux personnages de femmes, que ce soit dans la sélection officielle ou dans les sélections parallèles. J'ai beaucoup aimé, eh bien, en effet, vraiment tous les films que j'ai vus. Il y a notamment le long-métrage d'Annie de Jérémy Clapin, J'ai perdu mon corps, qui est absolument excellent et qui, je pense, va faire grand bruit quand il va sortir. Le nouveau film également de Nicolas Bedos, La Belle Époque. Bon, pour découvrir ce film, il faudra attendre l'automne prochain, mais il égale largement son premier long, Monsieur et Madame Adelman. Il me semble aussi qu'on a droit peut-être à un peu plus de légèreté cette année sur La Croisette. J'ai assisté également à la projection du dernier film de Christophe Honoré, où ça a beaucoup ri dans la salle.
Alors drôle, bah, tout n'était pas drôle hein, pour moi, notamment le Ken Loach, c'était pas très drôle. Ken Loach, très habitué donc au Festival de Cannes, qui a présenté son film avec beaucoup de succès, des applaudissements. Après, ce que j'ai plutôt apprécié moi dans cette 72e édition, on est un peu plus du demi-parcours là, pendant qu'on vous parle, c'est qu'il y avait beaucoup de films de genre. Ça avait commencé avec le film de Jim Jarmusch, et puis après il y a eu des polars, notamment celui de Diaou Yinan, Le lac des oies sauvages, qui est bon, où là il y avait Quentin Tarantino qui était présent, et il avait raison parce que c'était vraiment très stylisé. Alors ça, ce sera quelque chose qu'il faudra voir quand ça va sortir en salle. Et puis il y avait le lendemain le film du roumain la Gomera. Qui était hyper intéressant là aussi parce que c'était traité sous l'angle du genre. Après, il y a eu, c'est le directeur du festival, Thierry Frémont, hein, qui, à chaque fois qu'il prenait la parole, notamment pour présenter les films de la compétition à un certain regard, disait, parce qu'on lui demande souvent, mais les quotas, les femmes, où sont-elles ? Bon, il y avait beaucoup de réalisatrices dans la section Un certain regard, avec des films, effectivement, comme tu le disais, qui sont avec des femmes et qui renversent un peu le regard qu'on peut porter sur la féminité, sur les femmes, sur le rapport homme-femme. Il y a même eu un film de Midi Z, qui est un réalisateur taïwanais, sur l'affaire Weinstein. Enfin, voilà. Il y a énormément de brassages. On voit forcément beaucoup de films. Il y a plusieurs compétitions qui se traversent. Il y a les films hors compétition. On n'a aucune idée de ce que pourrait être la Palme d'Or. Hein. Enfin, je pense pas. Toi, Marine ?
Absolument pas. J'en ai absolument aucune idée.
Et donc, on en parlera la prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions donc présents sur la croisette pour la 72e édition du Festival de Cannes.
L'interprète de Gatsby, le magnifique à Cannes, Leonardo DiCaprio.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, la 72e édition du Festival de Cannes sera clôturée. On aura tout le palmarès, on pourra en parler, savoir si ça nous a déçus ou pas du tout. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer de regarder encore quelques films.
À la semaine prochaine.